Vous écoutez
RMC.
7h sur RMC, très bon réveil.
RMC, Apolline Matin.
Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Kenji Girac, hors de danger après sa blessure par balle. Le chanteur parle d'une erreur de manipulation. Une enquête est ouverte depuis hier soir pour tentative d'homicide volontaire. Des couvre-feux pour les mineurs en Guadeloupe et à Béziers. Ils sont en vigueur depuis hier soir face à la délinquance des adolescents.
Et à 7h40, ces maires donc en première ligne. Le gouvernement soutient-il ces initiatives de couvre-feu, notamment à Béziers? Faut-il armer les polices municipales? Les réponses de la ministre en charge des collectivités, Dominique Faure, qui sera mon invité à 7h40.
Et puis le carton des jeux d'argent. Ils ont battu tous les records l'année dernière en France et on va vous expliquer pourquoi.
Une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Enquête ouverte depuis hier soir.
Oui, pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi sur l'aire de Jean du Voyage de Biscarros dans les Landes. Là où le chanteur donc Kenji Girac a été blessé par balle, touché au thorax, avant d'être transporté à l'hôpital de Bordeaux. Il a été opéré dans la soirée, hors de danger ce matin. Il évoque lui-même la thèse d'un accident, une erreur de manipulation. Alors les circonstances sont encore floues. Enquête ouverte donc depuis hier soir et c'est l'incompréhension totale à Biscarros dans les Landes, comme nous le raconte Romain Houx pour RMC.
Nombreux sont celles et ceux qui ont déjà croisé le chanteur dans les rues de Biscarros. Et pour cause, ce n'est pas la première fois que Kenji et sa famille viennent s'installer sur cette aire d'accueil. Fred habite la commune, il parle d'un homme très apprécié des habitants.
Kenji, ça fait une dizaine de jours qu'on sait qu'il est là. Il fait ses courses normalement comme tout le monde, va au bar. Bon, personnalité Kenji, très très sympa, très amical. Il n'y a aucun souci, voilà.
C'est donc avec émotion que beaucoup ont appris la nouvelle, à commencer par Hélène Larezé, la mère de Biscarros.
Forcément, ça a créé de l'émotion, a fortiori quelqu'un qui est aussi populaire. Je lui souhaite un prompt rétablissement comme tous ses fans dont je fais partie.
Un émoi qui a bien sûr saisi également toute la communauté des gens du voyage. Nino Baliardo est le cofondateur des Gypsy Kings, mais il est surtout un ami de la famille de Kenji Girac.
C'est une star des Gitans et on est très 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 malheureux pour ce qui est arrivé. Beaucoup de gens prient des églises pour lui.
Kenji Girac a dû subir une opération hier en fin d'après-midi. D'après une source proche du dossier, il est sorti du bloc opératoire dans la soirée.
Et nous serons justement en direct depuis l'hôpital de Bordeaux, juste après le journal, avec notre correspondant sur place, également avec un armurier qui est notre témoin du jour. On essaiera de comprendre comment cet accident, si c'est un accident comme le dit Kenji Girac, a pu se produire.
Un couvre-feu pour les mineurs est entré en vigueur depuis hier soir à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe de 20h jusqu'à 5h du matin. Ça va durer au moins un mois face à l'augmentation des faits de délinquance dont quasiment la moitié sont commis par les 15-17 ans. Voilà ce qu'explique le préfet sur place. Couvre-feu aussi en place à Béziers pour les mineurs de moins de 13 ans à Béziers qui n'ont plus le droit donc d'être dans la rue après 23h. C'est un arrêté du maire Robert Ménard face à la progression, dit-il, de la violence. Jean-Wilfried Forquès pour RMC a passé la nuit avec une patrouille de la police municipale.
Direction un quartier difficile, Benjamin est au volant, Fabrice Cantel, le directeur de la police municipale, l'accompagne.
Là on est sur un secteur où il y a des mineurs de moins de 13 ans et qui servent régulièrement pour le trafic de drogue.
Mais les rues sont désertes.
Ben ce soir, c'est pas la fin de semaine, c'est pas vendredi, donc il y a peu de jeunes dans les rues, beaucoup moins que d'habitude.
Le maire de Béziers était également sur le terrain cette nuit. En 2014, il avait instauré un couvre-feu similaire, invalidé par le Conseil d'État 10 ans plus tard. Selon Robert Ménard, le contexte a changé.
Ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Ça touche les garçons, mais ça touche aussi les filles. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus l'accepter.
Et les Biterrois, rencontrés dans la nuit, apprécient l'initiative de l'élu.
C'est parfait, tant mieux, il était temps. Décision qui peut, j'espère, permettre de responsabiliser les parents.
Il va falloir qu'il y ait une surveillance qui soit certainement accrue de la part des forces de l'ordre, mais pour moi, oui, ça, c'est une bonne chose.
Un couvre-feu contesté par la Ligue des droits de l'homme qui envisage de déposer un recours.
La galère, ça continue ce matin à l'ouest de Paris et ce n'est que le début. L'autoroute A13, donc dans l'ouest parisien, ne rouvrira pas avant le 1er mai. On l'a appris hier soir, la faute à des fissures sur la chaussée provoquées par un affaissement de terrain. La galère annoncée jeudi dans les avions, dans les aéroports, avec une grève des contrôleurs aériens qui annonce déjà une mobilisation record, malgré la trêve qui avait été promise jusqu'aux Jeux Olympiques. Alors, ils se mobilisent, les contrôleurs aériens, après l'échec des négociations du projet de réforme des services de la navigation aérienne. Et donc, tous les syndicats, absolument tous, appellent à la grève, Caroline Philippe.
Ce qui laisse craindre une forte mobilisation et des centaines de vols retardés ou annulés, sans savoir précisément quelle sera l'ampleur des perturbations, car les contrôleurs aériens ont jusqu'à ce midi pour se déclarer grévistes. Depuis 15 mois, les négociations patinent entre d'un côté la Direction Générale de l'Aviation Civile qui veut réformer la manière dont fonctionnent les services de navigation aérienne pour notamment faire face à la hausse du trafic aérien et de l'autre, les syndicats qui ne sont pas contre mais qui réclament en échange une hausse de leur salaire, des avantages en termes de primes, de congés ou encore de grilles de rémunération. En décembre dernier, les syndicats majoritaires des contrôleurs aériens s'étaient engagés à ne plus faire grève jusqu'à la fin des Jeux Olympiques sur les questions d'inflation en contrepartie d'une augmentation du montant de leurs primes.
7h05 sur RMC, Géraldine Demory nous le disait, hein, c'est en ce moment même qu'il fait le plus froid.
Oui, pour vous donner une idée, on est fin avril, mais on a des températures dignes d'une fin février dans les trois quarts du pays, provoquant donc l'inquiétude des arboriculteurs, des viticulteurs également pour leur culture qui n'y comprennent plus grand-chose. Martin Caloret pour RMC, vous nous expliquez qu'il existe des solutions hein, pour lutter contre le gel des récoltes, mais alors ça coûte cher et il n'y a pas beaucoup d'aide.
Oui, il y a la méthode des bougies pour réchauffer l'air. Il faut en allumer des centaines. Ça coûte 2 à 3 000 euros par hectare. Opération à renouveler à chaque nuit de gel. Les professionnels préfèrent donc investir sur le plus long terme avec la méthode de l'arrosage, par exemple. On projette de fines gouttelettes qui forment de petits cocons de glace sur les bourgeons et vont paradoxalement les protéger du gel. Le problème, c'est qu'il faut des autorisations pour pomper qui peuvent prendre des années. Autre méthode, les tours à vent, des sortes d'éoliennes qui vont capturer l'air chaud en hauteur pour le redistribuer quelques mètres plus bas, coût autour de 40 000 euros pour 4 hectares. Des investissements pas ou peu subventionnés, mais devenus indispensables, car le système assurantiel, lui, ne fonctionne plus, explique Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits.
Quand vous avez une assurance, il se base sur la moyenne des 3 dernières années de récolte. Et le problème, c'est que comme on a des coûts durs, vous avez des moyennes de plus en plus basses. Et donc, si vous arrivez un coup dur, vous êtes indemnisé extrêmement peu.
Résultat, en 2023, seuls 12% des arboriculteurs avaient souscrit une assurance récolte.
Vous connaissez l'adage, hein, jouer avec excès comporte des risques. Oui, n'empêche que les jeux d'argent ont battu des records l'année dernière en France. Ils ont généré, écoutez bien, plus de 13 milliards d'euros. Ça n'a jamais été aussi élevé. En hausse de 3,5% sur un an d'après l'Autorité Nationale des Jeux et même 6% rien que pour les paris sportifs. Avec en toile de fond Lucas Laubert, la quête de frissons et l'appât du gain en ces temps d'inflation.
Oui, une recherche d'émotion que Manolo, parieur régulier, adore.
C'est enivrant, ouais. La sensation de gagner, etc. Et de voir des personnes sur qui on parie gagner aussi, c'est le frisson. Et en plus de ça, on gagne de l'argent, donc le bonheur, il est multiplié par 10 finalement.
Alors gagner, ce n'est pas pour tout le monde. Mba, il assure, la plupart du temps, on perd de l'argent.
J'étais un perdant en fait. Je jouais et je gagnais pas, du coup je me suis dit ça n'a pas de sens, je vais arrêter.
Il est resté raisonnable, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Je connais des potes, c'est comme une drogue pour eux, ils sont devenus accros.
Un risque d'addiction que prend au sérieux l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. Elle régule les jeux d'argent en France. Avec l'Euro de football, les Jeux Olympiques, 2024 risque d'être une année record sur les paris sportifs. Guillaume Laborderie, directeur marché innovation à l'ANJ.
Nous on appelle à une particulière vigilance sur les pratiques des joueurs. Le nombre de points de contact, de notifications push ou d'email est limité en nombre par jour, par semaine. Donc les spots TV aussi sont aussi encadrés à ce niveau-là.
L'année dernière, 3 600 000 personnes ont joué de l'argent en ligne en France.
Tiens, et puis on a la première action de la Chine. Première fois que les Chinois se défendent des accusations de dopage aux Jeux de Tokyo. Vous savez qu'il y a eu cette vaste enquête de la presse allemande et américaine qui évoque 23 nageurs chinois testés positifs à ces JO de Tokyo. Eh bien, c'est faux. Accusation fallacieuse. C'est ce que dit le gouvernement chinois. C'est pas du dopage, mais une contamination alimentaire à l'insu des nageurs. Donc pas du dopage, mais de l'alimentation.
Bon, j'imagine qu'ils seront particulièrement surveillés pour Paris 2024. 7h08, merci, c'était le journal de Quentin Vinet.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Direction Bordeaux, dans un instant, le mystère après la blessure par balle du chanteur Kenji Girac, toujours hospitalisé ce matin. Les dernières infos avec notre correspondant sur place. Et puis on va tenter de comprendre. Il évoque un accident. Quelle est cette arme qui a été retrouvée? Comment se l'est-il procuré? Les réponses et les explications d'un armurier qui est notre témoin du jour dans un instant. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bon réveil et bienvenue sur RMC et RMC Story. Il est 7h11.
Le témoin RMC.
Et on revient ce matin sur le mystère qui entoure la blessure par balle de Kenji Girac, alors que la star se trouvait sur une aire de gens du voyage à Biscarrosse. On va partir tout de suite à Bordeaux. Bonjour Pierre Bourgès.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes le correspondant d'RMC dans le sud-ouest en direct ce matin devant l'hôpital où est soigné le chanteur. Alors les circonstances sont toujours très floues. Qu'est-ce qu'on sait ce matin? Quelles sont les dernières infos?
Eh bien, les dernières infos, c'est l'enquête ouverte par le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Et ce que l'on sait, c'est que tout s'est passé hier matin vers 5h30. La gendarmerie est avertie qu'un tir par arme à feu a retenti sur l'aire de Grand Passage de Biscarros, où se trouvent une soixantaine de personnes de la communauté des gens du voyage. Quand les secours arrivent, ils trouvent un homme hors de sa caravane, blessé à la poitrine. C'est en fait le chanteur Kenji Girac. Vous savez, le chanteur à succès, devenu très populaire depuis sa victoire en 2014 dans l'émission de chant The Voice. Alors, il est dans un état grave. Les secours le transfèrent de toute urgence à l'hôpital Olévêque du CHU de Bordeaux, spécialisé en cardiologie. Ça, c'est pour la partie prise en charge du chanteur. Mais pendant ce temps-là, il y a la partie enquête qui démarre. Les gendarmes, eux, se rendent sur l'aire de Grand Passage. Mais difficile, en fait, d'en apprendre plus parce que là-bas, personne ne veut parler. Même constat hier à l'hôpital où est Kenji Girac. Je m'y suis rendu. J'ai pu rencontrer la famille et les proches du chanteur. Mais l'atmosphère était plutôt pesante. Personne n'a souhaité me raconter ce qu'il s'est passé ou comment allait Kenji Girac. Ce n'est pas le moment avec les ennuis qu'on a, explique brièvement la maman à RMC.
Alors que sait-on? Dans quel état est-il ce matin? Est-ce qu'il a pu donner des explications, être auditionné?
Eh bien, en tout cas, ça y est, il est hors de danger, il a été soigné. Mais pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas encore pu l'auditionner. Il est pour le moment toujours à l'hôpital où la sécurité est renforcée. Des agents de sûreté ont été placés près de Kenji Girac. Sa conjointe et plusieurs témoins ont en tout cas été entendus pour comprendre ce qu'il s'est passé la nuit de l'incident. Des équipes cynophiles et la cellule d'investigation de la gendarmerie étaient sur les lieux hier pour réaliser les premières analyses.
Et puis, il y a donc cette arme qui est au cœur de l'enquête.
Oui, elle avait disparu dans un premier temps hier, mais les gendarmes l'ont retrouvée quelques heures plus tard dans un fossé près des caravanes. C'est la famille qui leur a dit où était l'arme. Il s'agit d'un pistolet automatique de calibre 11, indique le procureur. Le chanteur a expliqué au secours qu'il se serait tiré lui-même dessus avec le pistolet. Un accident, donc, en voulant manipuler l'arme qu'il venait d'acheter dans une brocante près de Biscarros, selon lui. À ce stade, pour autant, aucune piste n'est écartée. Les enquêteurs continuent de vérifier le récit du chanteur.
Merci Pierre Bourgès en direct depuis l'hôpital de Bordeaux ce matin. Bonjour Yves Goletti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes le président de la Chambre syndicale nationale des armuriers. Justement, arrêtons-nous sur cette arme, ce pistolet automatique. On parle d'un Colt 45. Pierre nous le disait, Kenji Girac dit l'avoir acheté sur une brocante. C'est possible ça? On trouve ce genre d'arme, un pistolet automatique sur une brocante?
Évidemment, on ne devrait pas le trouver. Et sur une brocante, tout peut se passer, puisque vous pouvez avoir un brocanteur qui débarrasse une maison et qui retrouve l'arme du grand-père qui a été résistant, qui date de la guerre. Donc, il peut se retrouver sur une brocante une arme de ce type-là, mais c'est formellement interdit. Et cette arme est classée depuis 1939, ne peut être vendue qu'à un tireur sportif qui pratique le tir, qui a une autorisation de la police et tout.
Donc il faut avoir un permis,
il faut avoir une autorisation, elle doit être détenue dans un coffre, il y a toute une procédure qui entoure cette arme, et ça date de 1939, donc c'est pas d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle va nous dire cette arme dans l'enquête? Est-ce qu'en l'examinant et en examinant les alentours, les enquêteurs vont pouvoir comprendre ce qui s'est passé, éventuellement vérifier ce que dit Kenji Girac qui parle d'un accident?
L'arme va tout dire. D'abord, il faut retrouver, c'est une arme, donc il y a une cartouche qui a été tirée, donc il y a une douille qui doit être retrouvée, qui a été éjectée, il y a une balle qui a traversé le corps de M. Girac, donc on doit retrouver normalement le projectile, on espère qu'ils vont le retrouver, l'arme va parler, tout va être dit.
Comment vont travailler les enquêteurs?
Sur des prélèvements, d'abord pour les mains, pour tout le tour. Il faut savoir si ça a été tiré dans la caravane, parce qu'il y aura des résidus de poudre dans la caravane. Si ça a été tiré dehors, d'autres personnes, si elles ont de la poudre sur elles. Et puis, ils vont voir tout de suite si c'est la personne elle-même qui a tiré, puisqu'il y a une flamme qui sort, et que ses vêtements seront brûlés si c'est lui qui a tiré à bout portant.
Donc on saura qui a tiré, normalement?
À 99%, oui. Puisqu'il y a des empreintes, on saura qui a tiré.
Ouais. Le Kenji Girac explique que le coup serait parti tout seul. C'est possible avec ce type d'arme?
Oui, c'est possible. Normalement, avec des tireurs sportifs, il y a des règles de sécurité. On ne doit jamais appuyer sur la détente. On doit regarder si le canon est bien vide et diriger l'arme vers une zone de sécurité. Mais comme s'il n'avait pas l'habitude de manipuler cette arme, il se peut qu'il restait une munition. Il a pu voir que le chargeur n'était pas engagé. Il a cru qu'il était vide. Il en restait une dedans. Il a appuyé sur la détente. Et le coup est parti.
Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que cette arme, elle a été retrouvée sans le chargeur. Il y avait forcément un chargeur quelque part, ou vous dites pas forcément, il pouvait rester une balle?
Pas forcément. Est-ce que l'arme, il y avait toujours le chargeur? Souvent, le chargeur est stocké séparément. Comme elle a été achetée hors du réseau, il se peut qu'il y avait pas. Il est possible qu'il n'y avait pas le chargeur dedans et qu'il a cru que l'arme était vide parce qu'il n'y avait pas le chargeur.
Sans chargeur, mais un coup peut partir.
Bien sûr, il en reste une. Il en reste une d'engager dans le canon.
Il en reste une dans le canon et ça va probablement peut-être être le point clé de l'enquête si cette thèse se vérifie. Merci beaucoup pour vos explications ce matin. Yves Goletti, je rappelle que vous êtes président de la Chambre syndicale des armuriers, donc armuriers professionnels. Vous en vendez beaucoup des armes de
sport? On en vend aux tireurs sportifs. Oui, c'est d'ailleurs une arme qui est assez recherchée parce que c'est l'arme de la libération des Américains qui a été produite à 400 000 exemplaires.
Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin. Il est 7h17.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et à suivre, les maires, les élus locaux en première ligne face aux violences, face aux incivilités. Le maire de la ville de Mions, près de Lyon, a décidé de jeter l'éponge. Il démissionne. Quelle réponse de l'État? La ministre en charge des collectivités, Dominique Faure, répond sur RMC ce matin. Ce sera à 7h40. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic. RMC s'engage avec vous, avec Manu Le Chypre et avec Arnaud Demange, bien sûr, qui pirate le face-à-face. À tout de suite.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Et c'est l'heure de se plonger dans les coulisses de l'actualité avec les indiscrets de la rédaction d'RMC ce matin. C'est avec vous Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sébastien.
La flamme olympique, on le sait, arrive le 8 mai à Marseille. La grande inconnue pour le moment, c'est qui va la descendre du Belém, ce navire qui la ramène de Grèce. Plusieurs noms sont possibles. Vous nous dites ce matin, Nicolas, que les regards se tournent plutôt vers Zinedine Zidane et Florent Manaudou.
Oui, et cette arrivée dans la cité phocéenne doit montrer que les Jeux Olympiques en France ont débuté. Et pour lancer cette dernière ligne droite, Paris 2024 doit choisir un grand nom pour descendre la torche du Belém. Et qui d'autre que la légende du foot français est natif de Marseille pour marquer l'histoire. Dès la révélation des premiers détails de cette arrivée exceptionnelle, le nom de Zinedine Zidane était sur toutes les lèvres. Des proches du comité d'organisation répètent que cette image doit permettre un rayonnement de la France à l'international, sans préciser si c'est le porteur de la flamme ou l'image du vieux port qui permettra ce rayonnement. Un autre nom bien connu du foot français a aussi le profil parfait, celui de Didier Deschamps. Mais le grand favori reste Florent Manaudou, le licencié du Cercle des nageurs de Marseille, capitaine du relais de la flamme olympique, est prêt pour porter la torche lors de ce moment festif dans sa ville de cœur. J'ai réservé ma date et j'y serai, a d'ailleurs confié le champion olympique 2012 sur RMC. Le choix final reviendra à Tony Estanguet. L'étape du 9 mai sera aussi remplie de symboles. Ce jour-là, la torche olympique va parcourir Marseille avant un dernier relais au Stade Vélodrome. L'ultime relayeur va même faire le tour du toit avec la torche olympique. Dans ce lieu mythique, un footballeur qui a marqué l'histoire de l'OM est pressenti pour allumer le chaudron.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Sébastien Krebs.
Le 7h20 d'Apolline Matin avec toute l'équipe, avec Amélie Rosic, avec Arnaud Demange, avec Manu Le Chypre. Bonjour à tous les trois. On commence avec RMC s'engage avec vous. Amélie, il fait très froid ce matin, avec des conséquences très concrètes pour certains.
Oui, je vous emmène à Montreuil, en proche banlieue parisienne, chez Thomas et Mélissa, la trentaine. En début d'année, ils sont très contents parce qu'ils emménagent dans un logement social tout neuf. Un appartement avec deux chambres pour agrandir la famille, nous a expliqué Thomas. Sauf que dès l'état des lieux, le couple constate qu'il n'est pas en très bon état, visiblement très humide.
C'était enfermé, on va dire. Il n'y avait pas d'ouverture, on va dire. Donc on avait des difficultés à ouvrir les portes en bois aussi, ils avaient gonflé avec l'humidité, comme des auréoles hein, au niveau des murs, des traces jaunes, noires même, au niveau de la cuisine. Dans la salle de bain, on a carrément un mur qui s'effrite.
Et ce n'est pas tout, hein, comme si ça ne suffisait pas. La chaudière ne fonctionne pas depuis plus de 2 mois pour se doucher et se chauffer, c'est le système D.
On chauffait un petit peu d'eau chaude et on se lavait aux gants, quoi, un petit peu comme à l'époque. Et on a dû composer avec ce qu'on avait, quoi, avec les couettes, avec les bouillottes. Même avec ça, on avait froid.
Et ils acceptent quand même de prendre l'appartement, parce que vous savez, les logements sociaux, une fois que vous avez visité, si vous refusez, eh bien derrière, vous risquez de ne pas pouvoir postuler, par exemple, à un prochain appartement pendant un an. Ça dépend des bailleurs. Et depuis, Thomas et Mélissa payent évidemment le loyer, 1180 euros par mois tout de même.
Ils continuent de payer leur loyer. Et le bailleur social, lui, ne fait rien, si je comprends.
Pas grand-chose, en tout cas, pas suffisamment. C'est la société Inly, qui est leader, d'ailleurs, en Île-de-France, dans la gestion des logements sociaux intermédiaires, comme on dit, qui concerne les classes moyennes et les jeunes actifs. Thomas les a contactés plusieurs fois. Un technicien est passé, un plombier aussi, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Et c'est là qu'RMC s'engage avec vous, est intervenu, que vous êtes intervenu, Amélie.
Évidemment, avec Margot Boult, nous leur avons rappelé gentiment leurs obligations en termes d'entretien et de décence de logement. Et ça commence par un chauffage qui chauffe. Inly nous a répondu qu'il n'avait pas eu de chance. Figurez-vous, l'entreprise à laquelle ils avaient fait appel pour réaliser les travaux a fait faillite.
Oh, bon, zut.
Ok, soit. Sauf que ça, Thomas et Mélissa s'en fichent un peu, hein, on s'en doute. Et bien ce matin, on n'a que des bonnes nouvelles pour eux. On est ravis, grâce à nous. Une chaudière électrique provisoire doit être installée avant la fin de la semaine. Ça, avant la chaudière définitive. Et pour l'humidité, un séchoir doit être posé pour assainir les murs avant de refaire les peintures et stopper les infiltrations. Et pour couronner le tout, un geste commercial en guise de dédommagement. On vérifiera tout ça, bien sûr, avec la plus grande attention, vous le savez, parce qu'ils nous ont annoncé un délai avant la fin de la semaine. Ouais. Donc on
comme quoi, le petit coup de pression de l'équipe, ça marche.
On verra.
Ça marche à tous les coups. Amélie, merci. On passe à l'écho. Manu Le Chip, les syndicats et la direction de la SNCF se sont mis d'accord. Hein, c'est suffisamment rare pour être souligné. Ils se sont mis d'accord sur les fins de carrière des cheminots. Ça veut dire que les menaces de grève s'éloignent.
Oui, alors ça s'appelle un petit peu quand même acheter la paix sociale avant les ponts du mois de mai et surtout avant les Jeux Olympiques, puisque cet accord a été validé sur le principe par tous les syndicats représentatifs de la SNCF. C'est quand même un consensus suffisamment rare pour être souligné. Alors, le cœur de l'accord, c'est l'amélioration du dispositif de retraite anticipée, en particulier pour les cheminots qui ont occupé des postes pénibles. Les plus avantagés, ce sont les contrôleurs qui pourront entamer une cessation anticipée d'activité 3 ans avant leur départ en retraite, dont 18 mois rémunérés à 75% en restant chez eux. C'est le double du dispositif prévu pour les cheminots de base. En plus, le temps partiel de fin de carrière sera rémunéré 10% de plus que le temps réellement effectué. Et puis, la direction a également proposé la création d'un échelon d'ancienneté supplémentaire pour améliorer la rémunération des cheminots en fin de carrière.
Oui, donc en fait, cet accord revient à annuler les effets de la réforme des retraites.
Alors oui, pour les cheminots qui ont un métier pénible, puisque la réforme des retraites décale de 2 ans, il faut le rappeler, l'âge de départ de tous les cheminots. Donc quand vous gagnez 18 mois quasiment, vous voyez bien qu'on est quasiment à l'annulation de la réforme. Et ça l'atténue quand même pas mal pour les autres. Alors clairement, c'est une victoire pour les syndicats qui avaient subi plusieurs défaites notoires. Hein, la réforme qui mettait fin au régime spécial en 2018, l'allongement de la durée de la cotisation en 2014. Alors quand même, il faut préciser que ce genre de dispositif de pré-retraite maison existe dans beaucoup d'entreprises privées pour dynamiser un petit peu la gestion de la force de travail sur la fin de carrière. Mais quand c'est chez Michelin, Orange ou Stellantis, vous voyez, c'est des entreprises qui sont plutôt riches et qui gagnent bien leur vie. Là, on se dit, c'est quand même le contribuable et le voyageur qui finiront par payer.
Oui, ça va faire à réagir. Manu Le Chypre, allez, Arnaud Demange qui pirate le face-à-face. Ce matin, l'invité du face-à-face, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi.
Mais oui, c'est une magnifique chanson de Dick Rivers, en français Zob Rivière, pour accueillir Christian Estrosi. De fait, Christian Estrosi qui était hier en compagnie de Gabriel Attal dans un lycée de Nice, lycée ouvrant un internat à titre expérimental pour les élèves décrocheurs et primo-délinquants. Et Estrosi s'y connaît en primo-délinquant, puisque quand il était ministre de l'Industrie, il a travaillé avec Nicolas Sarkozy, François Fillon, Claude Guéant. Il est rodé en délinquance. Bref, alors Gabriel Attal s'est rendu dans une école publique, c'est pas souvent, c'était Rendez-vous en Terre Inconnue. Gabriel, vous allez découvrir un endroit sauvage, dangereux, mais tellement authentique, un internat lycée public avec la tribu des petits sauvageons.
Waouh, j'adore! C'est tellement typique. Ça ressemble à un HLM, mais c'est plus délabré. C'est normal, les courants d'air, là, il pleut par le toit. Faudrait appeler Amélie Rosic.
Gabriel rencontre ensuite les autochtones.
T'es en quelle classe, toi ?
Moi, alors je suis pas en classe, je suis Premier ministre de la France.
Vas-y, mytho, t'es un CM2.
Alors d'ailleurs, vous avez vu l'image de cet enfant qui balance à Gabriel Attal.
Waouh, vous êtes riche.
Et après, il enchaîne avec
Macron, il est méchant.
On l'a tous vu, l'image. Ouais. Alors, Gabriel Attal, d'abord, il bégaye, il fait c'est même pas vrai, je travaille avec lui quand même. Et après, il est rentré chez lui et il a discrétos collé une mention fauteur de troubles dans son dossier Parcoursup. Au moment, là, il n'aura plus de boulot nulle part. Hein. 8 ans, il est grillé, mais c'est pas grave, puisque le gamin est devenu instantanément l'idole de toute la gauche. Ils ont déjà décidé d'en faire son candidat pour 2027. Alors, courage, bonhomme, dans trois ans, t'es président à la place du méchant monsieur. Bref, on parlera d'éducation et d'école, ça tombe bien, c'est avec Néla Latrousse et avec Christian Estrosi. Et avec Christian Estrosi à
8h30. Néla. Et d'ici là, on retrouve Arnaud Demanche à 8h20. Dans un instant, la météo, le journal.
7h30.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal tout de suite avec Alice Dangean. Bonjour Alice.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Témoignage très fort dès le début de ce journal, celui du septuagénaire poignardé dimanche soir dans son hall d'immeuble à Marseille par des fumeurs de cannabis. 3 jeunes ont été placés en garde à vue. Une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire après la blessure par balle du chanteur Kenji Girac. Et puis en football, les Brestois qui sont bien partis pour jouer une Coupe d'Europe, mais pas à domicile, leur stade n'est pas aux normes.
Les investigations se poursuivent à Marseille après l'agression très violente d'un septuagénaire.
Poignardé pour avoir demandé à une bande de jeunes de sortir de son hall d'immeuble des quartiers nord dans la cité du Mail. C'était dimanche soir. Depuis, 3 personnes, dont 2 mineurs, ont été interpellées et placées en garde à vue, toutes déjà connues des services de police. Le septuagénaire est lui sorti de l'hôpital et il a accepté de témoigner auprès de nos confrères de BFM TV, Nicolas Trénaud.
Boubacar Diallo est l'un des plus anciens habitants de l'immeuble et rentré de la mosquée. Dans son hall d'entrée, des jeunes gens sont réunis. Comme d'habitude, ils ne dealent pas, mais certains fument du cannabis. Et comme d'habitude, M. Diallo leur dit de faire ça dehors. Mais cette fois-ci, les choses tournent mal avec l'un des jeunes et ses amis.
Il y avait 3 de ses collègues derrière mon dos, m'ont saisi. Et lui, il a foncé sur moi. J'ai eu la chance de lui donner un coup de tête.
Certains des jeunes qui l'agrippent sont ses voisins. Il lui arrache sa canne et l'agresseur en face sort discrètement une lame.
Et il est revenu à la charge une deuxième fois encore. C'est là que j'ai senti qu'il m'a blessé. Il m'a tapé juste ici, au côté du cœur.
Cet homme de 74 ans parvient à monter chez lui et prévient les pompiers. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais il prend conscience du choc.
Il voulait me tuer parce que la lame, elle est passée tout près du cœur. À l'hôpital, ils ont dit qu'il manquait 1 centimètre.
Son fils unique ne conçoit pas que son père puisse rester dans l'immeuble après cette agression.
Ça m'a en colère de voir que le respect est mort et que des jeunes que mon père a vu grandir, puisse atteindre à sa vie, quoi. J'aimerais comprendre.
Sorti de l'hôpital, hier, Boubacar Diallo va mieux, mais compte désormais faire profil bas dans le hall.
Dans le Nord, à Grande-Synthe, les suites de l'enquête sur la mort du jeune Philippe avec le placement en garde à vue hier d'un 3e adolescent de 15 ans, le cousin de l'un des mis en cause, lui-même victime d'une violente agression vendredi soir. Il est suspecté d'avoir participé au piège mortel tendu à Philippe la semaine dernière. Des nouvelles de Kenji Girac ce matin, le chanteur victime d'une blessure par balle est tiré d'affaire. Et même s'il a évoqué une erreur de manipulation d'une arme achetée la veille sur une brocante, une enquête a tout de même été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Il sera réentendu dès que son état le permettra. Mais ce qui intéresse ses fans et toute sa communauté, c'est qu'il aille bien, car Kenji Girac, c'est un symbole, rappelle Payou Baptiste, président de l'Union française des associations tziganes Grand Sud.
Il est plus que populaire dans la communauté. C'est le référent de la communauté. C'est grâce à lui si le peuple gitan est connu au niveau national et international. C'est quelqu'un qui est toujours resté humble, Kenji. On est tous derrière lui. Il nous a apporté énormément. Et il va encore nous apporter, on prie Dieu pour qu'il se rétablisse au plus vite et qu'il vienne nous voir dans le sud avec sa guitare et avec sa belle voix.
7h34, c'était une promesse d'Emmanuel Macron et elle se concrétise un peu plus aujourd'hui avec une première organisation patronale qui va signer un accord avec les syndicats pour permettre aux salariés de garder leur stock de congés même s'ils changent d'entreprise. C'est le compte épargne universel, l'UDP, qui représente les artisans, les commerçants et les professions libérales, va signer cet accord. Le MEDEF et la CPME, en revanche, n'en veulent pas. Sur l'assurance chômage, vous le savez, les négociations entre les partenaires sociaux n'ont pas abouti. Résultat, c'est le gouvernement qui reprend la main et qui a bien l'intention de durcir les règles d'indemnisation, ce qui fait hurler les syndicats, Alfred Orange.
Réduire les droits des chômeurs pour accélérer leur retour à l'emploi, c'est stigmatiser une catégorie de population fragile, s'insurge Dominique Corona, secrétaire adjoint du syndicat UNSA.
Ce gouvernement raconte une fable sur les chômeurs. Oui, effectivement, il y a 6 millions de demandeurs d'emploi. 2 600 000 sont effectivement indemnisés pour une indemnité de 1033 euros en moyenne. Croyez-vous franchement qu'à 1033 euros en moyenne, on n'est pas envie de trouver du travail pour vivre en France?
Surtout que l'efficacité d'une telle mesure n'est pas encore complètement démontrée, estime Clément Carbonnier, professeur d'économie à l'université Paris 8.
On a soit des études qui ne trouvent pas d'effet sur le retour à l'emploi, soit des études qui trouvent un petit effet sur le retour à l'emploi, mais qui en général est associé aussi à des emplois retrouvés qui sont de moins bonne qualité, à temps partiel ou en CDD plus court, et donc à plus long terme, peut annuler en fait l'effet en termes d'emploi.
Dans sa dernière note, le mois dernier, l'INSEE tablait sur un taux de chômage à 7,6% au premier trimestre 2024, un niveau que le pays n'avait pas connu depuis 3 ans.
Une négociation qui, elle, a abouti, celle entre les syndicats et la direction de la SNCF sur les fins de carrière. Accord signé hier qui éloigne la menace de grève sur les ponts du mois de mai. En revanche, préparez-vous à une journée noire dans les aéroports jeudi avec une nouvelle grève des contrôleurs aériens. Et puis un mot de l'autoroute A13 qui va rester fermée au moins jusqu'au 1er mai entre le périphérique parisien et Vaucresson. Il est 7h36 sur RMC. Le football et l'Inter Milan qui devient le deuxième club de l'histoire à remporter pour la 20e fois le titre de champion d'Italie. L'Inter qui a battu son grand rival de l'AC Milan, 2-1. En France, il y a un club qu'on n'attendait pas, qui a créé la surprise. C'est Brest, longtemps dauphin du PSG, qui vient de reculer à la 3e place derrière Monaco. Mais les Brestois sont bien partis pour se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine. Une Coupe d'Europe que le club ne pourra pas jouer à domicile, car le stade Francis Leblé n'est pas aux normes. Aurélien Tirsian.
Brest n'aura pas de dérogation de la part de l'UEFA, l'organisateur des Coupes d'Europe. Son stade Francis Leblé est vieux, 102 ans, et surtout il est construit en majorité sur des structures faites de tubes métalliques. 3 tribunes sur 4 n'ont pas de fondation, ce qui n'est pas autorisé par l'instance européenne. 2 possibilités pour le club, soit Brest veut jouer absolument dans sa ville et ne pourra disposer que de sa seule tribune en dur, donc 5000 supporters au maximum, soit il faudra jouer les matchs de Coupe d'Europe ailleurs, dans un stade homologué. Le plus probable étant le Roazhon Park de Rennes, plus grand, presque 30 000 places, mais situé à 239 km de Brest. Un rêve européen contrarié pour les Finistériens. Une qualification en Coupe d'Europe serait une première dans l'histoire du club.
Le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Compiègne.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Quelle Story. Et l'outsider, c'est le numéro 9, Attaque Massive. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Élise Dangean pour toute l'actu en ce mardi matin. Il est 7h38 sur RMC et RMC Story.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
Et à suivre, les maires, les élus locaux en première ligne face aux violences, face aux incivilités. Celui de la ville de Mions, près de Lyon, a décidé de jeter l'éponge et démissionne. Quelle réponse de l'État? La ministre en charge des collectivités, Dominique Faure, répond sur RMC ce matin. Soutient-elle les initiatives de couvre-feu prises notamment à Béziers? L'armement des polices municipales qui continuent de faire débat dans plusieurs villes? Elle est mon invitée en direct dans ce studio sur RMC et RMC Story. Dans un instant, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
Sébastien Krebs.
Bienvenue sur RMC si vous nous rejoignez, il est 7h40.
L'invité du jour.
Bonjour Dominique Faure.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre en direct ce matin. Vous êtes la ministre en charge des collectivités, la ministre des élus locaux. Et je voudrais justement qu'on commence cet entretien en parlant de l'un de ces élus locaux, le maire de Mions dans le Rhône, près de Lyon, qui a annoncé ce week-end sa démission après 10 ans de mandat. Claude Cohen, à 75 ans, il se dit révolté à la fois par les lourdeurs administratives, le manque de soutien de l'État et par les attaques antisémites qu'il a pu subir. C'est finalement un énième exemple d'un élu local qui jette l'éponge. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, monsieur le maire de Mions a pris cette décision. Vous l'avez dit, 2 sujets. La simplification sur lequel nous travaillons d'arrache-pied depuis déjà presque 18 mois, avec une composante de la mission que le président de la République a confiée à Éric Woerth sur la simplification. Donc, bien sûr, je suis au contact quotidien avec ces élus et je sais à quel point...
Vous avez pu échanger avec lui ?
Pas encore. Mais mon cabinet est en relation avec la préfecture. Bien sûr, je vais l'appeler, je les appelle tous. Et je vais même le recevoir pour comprendre. Et puis ensuite, le second sujet, c'est les violences et les menaces antisémites dont il dit avoir fait l'objet et qui sont absolument insupportables. Cette lutte que j'ai conduite il y a maintenant à peu près un an, Saint-Brévin, c'était il y a un an, que je conduis pour mettre en place à la fois un pacte sécurité puis un plan de lutte contre les menaces et les violences faites à nos élus, qui est maintenant depuis juillet et depuis maintenant janvier, avec les sanctions dans le cadre de la loi qui a été portée par le Sénat et qui vise à sanctionner qui s'attaque à un élu de la même façon que qui s'attaque à un gendarme, à un policier.
Et vous nous dites ce matin que l'État est à ses côtés, en quelque sorte, mais lui, c'est pas ce qu'il dit. Par exemple, sur ses attaques antisémites, il dit n'avoir jamais eu de contact avec la préfecture, ni même la préfecture l'a contacté pour le soutenir. Il était pris visiblement dans des formalités, dans des sanctions sur la question du logement social. Il dit que l'État fait preuve de trop peu de compréhension par rapport aux difficultés que rencontrent les élus sur le terrain.
Je vais le rencontrer et j'en saurai plus sur effectivement cette perception de sa part que à la fois le gouvernement et Madame la préfète ne sont pas suffisamment à ses côtés. De toute façon, il faut qu'ensemble on lutte contre ces violences, contre ces menaces. Et je pense que cette démission, ben, c'est encore pour nous un travail que nous allons poursuivre.
Il est toujours question de créer un statut de l'élu, parce qu'il y avait eu cette proposition de loi adoptée au Sénat, il y en a une autre déposée à l'Assemblée, puis finalement, après, il ne s'est rien passé. Vous allez faire un projet de loi pour créer un statut de l'élu pour protéger ces élus locaux ?
On ne sait pas encore si on va s'appuyer sur cette proposition de loi issue du Sénat ou si on va aller plus loin sur une proposition de loi issue de l'Assemblée nationale ou si on fera un projet de loi. Mais il y aura, je m'engage devant vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a un statut de l'élu dans notre pays voté avant la fin de l'année ? C'est vraiment quelque chose à quoi je tiens. On a un bel objet qui vient du Sénat, on va avoir un bel objet qui vient de l'Assemblée nationale, mais avec cette mission que le président de la République a confiée à Éric Woerth, on va pouvoir, à mon sens, aller plus loin.
Alors, des maires qui sont en première ligne, on le disait, notamment face aux violences, face aux incivilités, est-ce que vous soutenez l'initiative du maire de Béziers qui a instauré donc un couvre-feu pour les moins de 13 ans sur sa ville ?
Un enfant de moins de 13 ans n'a rien à faire dans la rue, seul, sans un majeur, après 23 heures. Donc, voilà ce que je vous dis. Oui, il y a vraiment.
Donc il faudrait mettre en place ce couvre-feu partout ?
Pas du tout, parce que ce qu'il faut mettre en perspective, c'est le contexte dans la ville de Béziers et la montée de la violence. Donc après analyse, monsieur le maire, et on est là dans sa décision et la décision des maires, ben peut-être à un moment donné, effectivement utile.
Ça avait été retoqué par la justice il y a quelques années. Il remet sur le tapis cet arrêté. Il estime que la situation a changé. C'est ce que vous nous dites aussi. Vous n'avez pas le sentiment que c'est disproportionné ?
Je pense qu'il teste effectivement la viabilité juridique de cette décision. Mais moi, je suis intéressée par cette initiative. Si le contexte amène un maire à prendre une telle décision, oui, je considère que ces enfants, sans autorité parentale, sans présence parentale, sans majeur pour les accompagner, n'ont pas leur place dans la rue après 23 heures.
Alors les maires misent aussi beaucoup, de plus en plus, sur leur police municipale. Un certain nombre de maires les ont armés, mais d'autres maires refusent, y compris dans des grandes villes, à Paris ou à Bordeaux, les policiers municipaux ne sont pas armés. Est-ce que vous estimez qu'il faudrait que les policiers soient armés partout, y compris les policiers municipaux ?
On est, vous le savez bien, sur la libre administration de nos collectivités locales. On est sur une décision qui appartient au maire. Encore une fois, le contexte, la montée de la violence sur la commune peut amener certains maires à décider d'armer leur police municipale. Personnellement, j'étais maire d'une commune de 14 000 habitants à côté de Toulouse, Saint-Orens-de-Gamville, et j'ai pris dès 2015 la décision d'armer ma police municipale. Mais il y a trois conditions à cela. Il y a d'abord la montée de la violence sur la commune qui amène les élus à y réfléchir. Il y a ensuite un conseil municipal qui délibère ensemble et qui considère que c'est nécessaire. Et puis évidemment, il y a un travail, un dialogue qui est à conduire avec les policiers. Il faut qu'ils en aient envie, il faut qu'ils le souhaitent.
Donc il n'est pas question de forcer les maires finalement à armer leur police municipale. Ça n'est pas ce que vous souhaitez.
Non, il n'est pas question de les contraindre à quoi que ce soit. On est vraiment dans ce cadre de la libre administration. Simplement, je veux dire un mot sur ce continuum de sécurité que nous portons avec Gérald Darmanin. Et on voit qu'à quel point ce sont des primo-intervenants, ces policiers municipaux. Et ce continuum de sécurité, c'est entre la police municipale sous l'autorité des maires et les forces de sécurité intérieures sous l'autorité de Gérald Darmanin. Donc, et du ministre de l'Intérieur. Donc, on voit bien à quel point nous devons travailler pour faire en sorte, pour protéger les Français, qu'il y ait une continuité de sécurité sur le territoire.
Justement, Gérald Darmanin, qui est votre ministre de tutelle, veut étendre les missions de ces policiers municipaux pour qu'ils puissent faire quoi qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui ?
On a travaillé lors du Beauvau des polices municipales qui s'est passé à Vendôme. Pourquoi ? Parce qu'on était sur un sujet de l'élargissement des prérogatives de nos policiers municipaux. Beaucoup de maires nous le demandent, tous ceux qui ont fait l'objet d'émeutes au mois de juillet 2023. Et oui, nous devons faire évoluer le droit pour essayer de permettre à ces maires-là, sur leurs décisions et leurs délibérations,
sur d'élargir ces prérogatives. Sur quelle mission, par exemple ?
Les missions, vous savez, ils sont souvent en situation de flagrant délit. Ils ne peuvent rien faire si aujourd'hui on ne leur permet pas d'agir sous l'autorité du procureur.
C'est-à-dire leur permettre par exemple d'arrêter quelqu'un, leur permettre de verbaliser,
tout
leur permettre...
Tout ce qui est petit trafic de drogue par exemple, c'est pour nous indispensable qu'ils puissent sous l'autorité du procureur, dans le cadre de ses fonctions d'OPJ, d'officier de police judiciaire, qu'ils puissent sur un...
Ils sont formés ces policiers municipaux à la lutte contre la délinquance ?
Alors, ils ne sont aujourd'hui ou ils ne le sont pas, tout dépend des maires. Je crois que vous recevez le maire de Nice tout à l'heure. Il vous expliquera à quel point certaines communes, effectivement, se sont saisies du sujet et forment à la fois à l'armement pour ceux qui sont armés, mais aussi à la lutte contre la délinquance pour être, mais en condition que les policiers le souhaitent, le maire le souhaite, les conditions le justifient. Donc je pense que c'est important de rappeler tout ça.
Je voudrais qu'on dise un mot des pompiers parce que vous ouvrez un grand cycle aujourd'hui de concertation avec tous les acteurs de la sécurité civile. Les syndicats de pompiers demandent une refonte notamment du financement des pompiers. Ils estiment qu'il faudrait d'ailleurs augmenter le nombre de sapeurs-pompiers qui sont sursollicités aujourd'hui parce qu'il manque des médecins et que du coup on les appelle et parce qu'on sait que les risques d'incendie ont beaucoup augmenté. Est-ce que l'État va mettre plus de moyens sur la table pour les pompiers ?
Le sujet du Beauvau de la sécurité civile, c'est véritablement se mettre autour de la table, tous ensemble, toutes les parties prenantes, pour valoriser, moderniser notre sécurité civile, sur laquelle on n'a pas bougé énormément depuis 25 ans. Donc la volonté de Gérald Darmanin par l'ouverture de ce Beauvau de la sécurité civile, c'est de travailler à la fois sur comment on prépare nos pompiers à lutter contre le feu, à lutter contre toutes les inondations.
Et pour ça, il faut des moyens.
Et pour ça, il faut des moyens. Et on va travailler évidemment sur le financement nos forces de sécurité civile.
Ce financement qui repose beaucoup sur les départements aujourd'hui, ce sont les services départementaux d'incendie et de secours. On sait qu'il faut faire beaucoup d'économies budgétaires. Les collectivités vont être mises à contribution. Est-ce que les départements ont et auront encore les moyens d'entretenir ces services et suffisamment à hauteur contre les risques que vous pointez ?
Le financement de la sécurité civile est un travail que l'on va conduire ensemble, pas seulement avec les départements, mais aussi avec les maires qui cofinancent souvent ces SDIS. Et c'est bien l'objet du travail que nous allons faire. Il y a plusieurs façons de financer les SDIS, pas seulement l'État. Nous mettons aujourd'hui dans ce que nous appelons le pacte capacitaire 150 millions d'euros pour financer...
Il n'y aura pas d'économie sur ces services-là, pour aller au fond de la question. Il n'y aura pas d'économie du côté de l'État sur ces services d'incendie et de secours.
Il n'y aura pas d'économie. L'idée est de travailler ensemble pour adapter nos moyens et le financement de ces moyens à la dangerosité à laquelle nous devons faire face, essentiellement environnementale, comme je l'ai dit, le feu, les inondations. Donc ce travail est à conduire, ça sera 7 ou 8 étapes qui vont se dérouler partout en province. Nous ouvrons aujourd'hui à Beauvau ce sujet avec toutes les parties prenantes de la sécurité civile.
Merci Dominique Faure d'être venu ce matin.
Avec plaisir.
D'RMC et d'RMC Story, ministre délégué en charge des collectivités territoriales. Il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le bonus de Martin. Dans un instant, Nicolas Poincaré, d'abord, expliquez-nous.
Et je vous explique dans un instant pourquoi un haut gradé du renseignement militaire israélien vient de présenter sa démission. Il s'estime responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Et donc le bonus de Martin Bourdin avec ce matin des nouvelles de Céline Dion.
Et oui, she's alive, toujours en vie, Céline Dion, très discrète depuis 2 ans, depuis qu'elle a révélé être atteinte du syndrome de la personne raide. Elle vient d'accorder un entretien au magazine Vogue, dont elle fait la couverture cette semaine. Et donc, oui, elle nous donne de ses nouvelles plutôt rassurantes. D'ailleurs, elle qui avait dû annuler sa tournée l'année dernière, ça va bien, mais c'est beaucoup de travail, c'est un jour à la fois, nous dit Céline Dion, la chanteuse québécoise, qui explique suivre une thérapie athlétique, physique et vocale 5 jours par semaine. J'ai choisi de travailler tout mon corps. Mon but est de revoir la Tour Eiffel. Pas de date en revanche pour un éventuel retour sur scène. Mon corps me le dira, mais il y a une chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est de vouloir. Elle a la volonté
aussi,
de remonter sur scène, effectivement. Et en tout cas, cette phrase qu'elle dit donc dans le magazine Vogue va donner de l'espoir à ces millions de fans à travers le monde qui veulent la revoir remonter sur scène.
RMC, Apolline Matin.
7h54, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Un haut gradé du renseignement israélien a présenté sa démission hier. Il s'estime en partie responsable des erreurs qui ont permis les massacres du 7 octobre.
Oui, cet homme qui s'estime donc responsable et donc coupable et qui donc démissionne, c'est le général Aliva, un des maîtres espions israéliens. Il dirigeait le service de renseignement militaire de l'armée israélienne. C'est le premier haut gradé israélien à tirer les conséquences de l'échec. Le 7 octobre dernier, le jour de l'attaque du Hamas, il était en vacances, en famille, au bord de la mer Rouge. Et vers 3h du matin, il a été averti qu'il se passait peut-être quelque chose à Gaza. Plusieurs services de renseignement ont été alertés et se sont coordonnées cette nuit-là. Il était question de Palestiniens qui allaient peut-être tenter de faire une incursion en Israël pour enlever un otage. Mais rien n'était confirmé et après plusieurs consultations téléphoniques, les responsables militaires israéliens ont décidé de ne rien faire, de ne même pas élever le niveau d'alerte et 3 heures plus tard, seulement le Hamas entrait en Israël pour commettre les massacres que l'on sait.
Et ça n'est pas la seule erreur de jugement que se reproche ce général.
Non, quand le général dit qu'il a failli, qu'il n'a pas assuré sa mission qui était de protéger ses concitoyens, il ne fait pas référence à cette alerte reçue cette nuit-là, il fait référence plus largement à l'aveuglement israélien à tous les services d'espionnage, dont le sien, qui n'ont rien vu venir. Pourtant, dès 2022, les espions israéliens s'étaient procuré un plan secret du Hamas appelé le plan du mur de Jéricho, qui ressemblait beaucoup à ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais ce plan a été jugé irréaliste par les autorités et aucune conséquence n'a donc été tirée. Puis 3 mois seulement avant le 7 octobre, une deuxième sérieuse alerte a été ignorée. C'est Libération qui le raconte. Une analyste de l'unité 8-200, l'unité chargée des écoutes téléphoniques, avait repéré que le Hamas avait acquis les capacités militaires nécessaires pour une opération massive en Israël. Mais les alertes de cet analyste n'ont pas été prises au sérieux par ses supérieurs. Des supérieurs qui appartiennent donc au service de renseignement de l'armée, ce service dirigé par le général Aliva qui vient de démissionner.
Comment on explique cette série d'erreurs ?
Alors elle découle d'une série de certitudes qu'avaient les Israéliens. Il était admis dans l'armée que le mur qui entourait Gaza était absolument infranchissable. Un mur de 6 mètres de haut, 65 km de long, bardé d'électronique et de caméras. Personne n'avait envisagé que quelques drones pourraient endommager les caméras et qu'il suffirait ensuite de bulldozers pour enfoncer le mur et les barbeler. L'autre fausse certitude que les Israéliens avaient, c'est que leurs services de renseignement étaient les meilleurs du monde, infaillibles donc, et qu'une opération de grande envergure ne pourrait pas leur échapper. Sauf qu'ils surveillaient surtout les leaders politiques du Hamas, pas les leaders militaires opérationnels qui, eux, vivaient dans les tunnels pour échapper aux satellites et qui communiquaient avec des petits bouts de papier pour échapper aux écoutes téléphoniques. Et ces militaires ont décidé de l'attaque du 7 octobre sans en référer à leur chef. Le secret a été parfaitement gardé jusqu'au bout. Ismaël Haniyeh, qui est le grand chef du Hamas et qui vit au Qatar, a semble-t-il appris la nouvelle lui-même alors que l'attaque avait déjà commencé. C'est donc une autre raison de l'échec des services de renseignement.
Ce général démissionne, il va être le seul à porter le chapeau ?
Non, sans doute pas. Une enquête militaire sur toutes les défaillances de l'armée le 7 octobre est en cours et elle rendra ses conclusions en juin prochain. Il y aura certainement des têtes de généraux qui vont tomber. Mais le général Aliva, dans sa lettre de démission hier, a surtout suggéré qu'il fallait créer une commission d'enquête sur les responsabilités politiques. Et là, eh bien, c'est le Premier ministre qui est visé. Benjamin Netanyahu sera certainement interrogé un jour sur la question de savoir pourquoi lui non plus n'avait rien vu venir.
Expliquez-nous. Nicolas Poincaré, chronique à retrouver, bien sûr, en podcast sur rmc.fr. Dans un instant, la météo et dès le début du journal de 8h, on sera auprès des agriculteurs en direct ce matin, les agriculteurs de la Loire qui font tout pour sauver leur récolte face au gel. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.